9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et le mardi, quand elle n'est pas toulousaine, Nadia Elbouga est avec nous. Bonjour Nadia et bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Bon, aujourd'hui vous n'êtes pas toulousaine, mais vous nous avez invité un Toulousain.
Exactement.
Oui, comme ça vous manque, hein?
Oui, et pas n'importe quel Toulousain. Bien. Un Toulousain qui va beaucoup nous apporter aujourd'hui.
Très bien, il s'appelle Daniel Welser-Lang. Bonjour et bienvenue.
Bonjour à vous.
Voilà, vous êtes sociologue et vous êtes spécialiste de l'identité masculine et vous publiez « Les nouvelles hétérosexualités » chez RS, un livre qui s'adresse à ceux et à celles qui essaient de s'informer sur les nouvelles formes de sexualité. Mais est-ce que c'est aujourd'hui dans les livres qu'on s'informe sur les nouvelles formes de sexualité? C'est pas plutôt sur Internet qu'on va?
Alors, je crois que c'est les deux. Parce qu'il y a profusion d'informations sur Internet, mais du coup, on ne sait pas trop quelles sont les informations qui sont utiles, vérifiées scientifiquement, ou qu'est-ce qui est juste l'idée d'une personne qui écrit. Je pense que le livre est complémentaire d'Internet. Et en tout cas, il y a des gens qui l'achètent pour essayer de comprendre et avoir d'autres paroles sur les sexualités actuelles.
Alors vous nous expliquez que nous vivons une période de transition, même plus que ça, une période de remise en cause totale. Qu'est-ce qui est en train de changer ?
Alors plein de choses. D'abord les modes de communication, vous venez de parler d'Internet et il y a plein de gens qui cherchent l'âme sœur sur Internet aujourd'hui. Et puis on a vécu deux révolutions parallèlement, la révolution féministe pour que les femmes et les hommes soient enfin égaux et égales, et la révolution LGBT, que je rajoute QI, c'est-à-dire comment les lesbiennes, les gays, les bi, les transgenres disent on est aussi des personnes à part entière et on tient à être respectés comme ça. C'est les deux révolutions qu'on vit actuellement.
Vous dites également que la révolution sexuelle, elle se place en parallèle de la révolution numérique.
Eh ben oui, parce que imaginez qu'on est perdu dans une cité ou dans un petit bled de campagne, comment on fait pour retrouver des gens? Et là, magiquement, il y a un téléphone, il y a un fil numérique qui arrive et on peut faire des communautés, discuter avec des personnes qu'on ne connaît pas, de pratiques qui, en général, n'étaient pas discutées du tout.
Oui. Qui était même très planqué, finalement.
Très planqué, oui. Ben, on a plein d'exemples avec mon équipe de recherche. Hein. Il y a des recherches qu'on a faites pour mettre en place la prévention du sida pour le ministère de la Santé. Pendant X années, il y a eu interdiction d'en parler. Bon. Par exemple, sur le libertinage, ouais. Ça a duré longtemps.
Ce que vous dites, que par exemple, c'est qu'il y a des pratiques qui sont plus ou moins faciles à afficher aujourd'hui. Le libertinage, ça reste une pratique qui est difficile à afficher. Pourquoi ?
Pour les femmes. Pour les hommes, c'est valorisant de dire « je suis libertin, j'ai plusieurs partenaires, ou je peux en avoir, ou je connais des lieux où il y a plusieurs partenaires ». Une femme qui se déclarerait libertine, aujourd'hui, on la regarde bizarrement. Quelque part, on va penser que ce n'est pas une femme normale, ou une femme propre, ou une femme impure. Les personnes qu'on a interviewées, les femmes libertines disent qu'elles ne le disent pas à tout le monde.
Mmh. Alors, moi, j'ai appris énormément de mots nouveaux dans votre livre. Tiens, par exemple, Nadia, je teste sur vous le sapiosexuel.
Alors, c'est l'attirance envers les personnes qui ont une intelligence.
Voilà. Un sapiosexuel, c'est une personne chez qui l'intelligence de l'autre provoque une excitation sexuelle. Bon, c'est le moins pire que j'ai trouvé. Mais il y en a énormément. Il y a les allosexuels. Alors ça, c'est pas ceux qui sont amoureux de Nabila, les allosexuels. Hein.
Non,
allosexuel.
C'est plus utilisé au Québec qu'en France, d'ailleurs, les allosexuels.
Non, je teste Nadia pour voir allosexuel.
Là, vous me posez une colle.
Hein?
Alors, c'est Dr Welser-Lang qui va nous répondre.
Ici, on parlera plus de pansexuel, par exemple, en Europe. Il y a des personnes qui disent, après tout, est-ce que c'est important le type de personne dont je suis amoureux ou amoureuse, ou le type de personne avec qui j'ai une relation? Est-ce que c'est important que ce soit un homme, une femme ou une personne qui se définit entre les deux? Parce qu'il y a de plus en plus de ça aujourd'hui qui apparaissent. Ouais.
Alors justement, ce qui est intéressant justement dans votre livre, c'est que vous expliquez, donc à travers les nouvelles hétérosexualités, qu'en fait, maintenant, beaucoup de personnes se revendiquent non-binaires, c'est-à-dire ne pas appartenir au genre masculin ou au genre féminin, mais à un autre ou à d'autres genres qui ne sont pas forcément définis, et qu'il y a des personnes qui sont comme ça dans une... dans une espèce de genre fluide, voilà, au gré de leur personnalité, de leurs humeurs, de leur et que ça en fait fait qu'il y a une redéfinition des sexualités et notamment des hétérosexualités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Oui, sur la question du genre, la question c'est la domination masculine. Elle a 50 siècles ou 70 siècles, donc elle existe partout dans le monde. Elle est remise en cause, et en même temps, ce que se rendent compte à forme de femmes ou d'hommes, dans une moindre mesure, c'est qu'on a beau vouloir lutter contre la domination masculine, à partir du moment où on dit cette personne-là est une femme ou un homme, on se comporte différemment par rapport à ces gens-là. Les nouvelles générations, parce que le non-binaire, c'est très pratiqué dans les nouvelles générations, disent... On en a marre d'être classé comme homme et comme femme et d'avoir des stéréotypes accolés au fait qu'on soit un garçon ou une fille. Eh ben nous, on a un genre fluide et c'est pas important. Et on a ça beaucoup dans les...
Alors, un genre fluide, est-ce que c'est un non-genre ?
Ça peut être un non-genre. Vous savez, c'est le début de la révolution du genre pour ça. Donc il n'y a pas encore d'accord entre les scientifiques, les chercheurs, les activistes et les pseudo-experts. Donc on est en train de discuter, mais le non-genre, les gens qui se réclament d'être bi-genre, les gens qui se réclament d'être genre fluide, c'est un peu la même chose. Ils remettent en cause la division de notre société en deux, d'un côté les garçons en bleu, de l'autre côté les filles en rose. Et ils disent ça, on n'en veut plus. Et quand on réfléchit un peu plus loin, on se rend compte que c'est peut-être un des moyens qu'on obtient aujourd'hui pour dépasser la domination masculine. Donc, si on ne sait plus si la personne qui se prend pour un travail, c'est un homme ou une femme, ça va changer quand même les choses.
Bien. Pour recadrer le débat, nous assistons, nous expliquez-vous, à une déconstruction de ce qui était présenté jusqu'à présent comme une sexualité dite normale, c'est-à-dire l'hétérosexualité.
C'est ça, oui.
Donc, on interroge ce qu'on appelait la norme hétéronormée.
C'est ça.
D'accord. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de cette norme ou c'est juste une interrogation ?
Cette norme venant en même temps que la domination masculine, forcément elle est contestée. Dans l'hétérosexualité dite normale, qu'on assimile à naturel, hein, parce que c'est pas, il n'y a pas plus normal qu'autre chose, quand on regarde les époques historiques, les normes, le normal a varié. Ben, dans cette norme-là, les hommes sont actifs, les femmes sont passives. Dans cette norme-là, c'est l'homme qui décide ce qui est bien pour sa famille, etc. C'est-à-dire qu'on a associé avec les sexualités un certain nombre de pratiques sociales qui sont oppressives pour les femmes, pour les enfants, etc. Et pourtant, à côté des questions liées aux homosexualités, il y a des gens qui ont dit « Moi, j'aime bien quand même, moi, je suis un garçon, né garçon, et j'aime bien les filles, ou l'inverse. » Et du coup, qui réfléchissent un petit peu, est-ce que dans l'hétérosexualité, tout est à prendre, ou est-ce qu'on peut remettre des bouts en cause ? Et c'est ça qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se déclarent hétéros, mais qui disent « On n'est pas normatif, on est contre la domination masculine, on est contre la ségrégation des gays et des lesbiennes, et on veut vivre autre chose. » C'est cette autre chose-là qu'elle cherche à définir aujourd'hui.
Mais vous allez quand même un peu plus loin parce que vous dites pour parler un peu jeune, vous dites que même dans les mouvements LGBT, ils sont même presque un peu has-been dans le sens où ils se norment finalement puisqu'il y a une revendication du mariage dans la communauté homosexuelle. Il y a aussi la demande d'adoption et donc finalement entrer dans un cadre qui à l'origine est hétéronormatif.
Oui, mais ça c'est un peu le mouvement propre à la jeunesse. La jeunesse, et on a tous été jeunes, on essaye de se présenter comme différents des générations précédentes. Les jeunes gays, lesbiennes et bi ont commencé à contester les vieux mouvements homosexuels, disant ils sont très normatifs, ils revendiquent des choses qu'on ne veut pas. Et du coup, ils reprennent des schèmes hétéronormatifs. Donc ils ont essayé de se situer différemment de cela. C'est aussi un moyen de dire, la société, elle avance, elle se reproduit, mais elle ne se reproduit jamais à l'identique. Et chaque nouvelle génération veut marquer de son sceau l'évolution des rapports hommes-femmes.
Vous parlez de la jeunesse. Alors, est-ce qu'on doit comprendre que c'est un mouvement de mode qui passera, ou est-ce que le mouvement est beaucoup plus profond et que c'est vraiment la remise en cause d'une norme, celle que qu'on a vécue, nous, au XXe siècle.
Et que c'est une véritable révolution, en fait, que finalement la révolution du genre est la réelle révolution par rapport à ce qu'on appelle la révolution sexuelle des années 70.
Dans les années 70, quand les jeunes féministes ont dit « nous on est contre la domination », on ne leur a pas dit « c'est un mouvement de mode ». Et ça a donné les résultats. Mmh. Aujourd'hui, c'est les jeunes générations qu'on trouve ces mouvements-là, mais en même temps, ils entraînent derrière eux une réflexion collective qui est importante. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un café polyamoureux, sur le polyamour, c'est-à-dire le fait de pouvoir être amoureux ou amoureuse de plusieurs personnes à la fois. Il y a plein de gens qui viennent pour discuter et qui disent « Ah, vous faites ça, ben nous on le faisait depuis longtemps, mais on ne mettait pas ce mot-là sur ces pratiques-là ». Autrement dit, les jeunes sont en train d'imposer un certain nombre de discussions aux générations précédentes. Et a priori, on peut imaginer que c'est un mouvement qui va perdurer et se développer.
En fait, les jeunes finissent par nommer ce qui a toujours été pratiqué, mais qu'on ne disait pas.
Tout à fait. Et puis, mettre des mots sur une chose sociale, c'est commencer à pouvoir la contester aussi. Quand on ne met pas de mots sur une pratique individuelle ou collective, elle est invisible.
D'accord. Mais là, qui s'est toujours pratiqué et qui ne se disait pas, il y a aussi quand même la notion de combien de gens le pratiquaient, Nadia, aussi. Quoi.
Mais justement, on ne peut pas chiffrer combien de gens le pratiquaient puisque ça ne se disait pas. Donc au final, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de polyamoureux aujourd'hui parce qu'on en parle et parce que les gens même le revendiquent, le disent. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en avait moins à l'époque. Enfin, je ne sais pas. Qu'en pense le professeur en sociologie?
Les garçons, on nous a toujours appris qu'il y avait les femmes qu'on aimait avec qui on vivait et les femmes qu'on aimait avec qui on faisait l'amour et qu'au bout d'un moment, ce n'est pas forcément les mêmes. On parlait de polygamie, pas de polyamour. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des femmes qui nous disent « Moi, je veux une sexualité qui ne soit pas romantique. Je veux pouvoir prendre du plaisir avec mon partenaire ou mes partenaires comme un garçon prend du plaisir. » Il y a une contestation de la division entre hommes et femmes sur la gestion des désirs. Les femmes se sont battues pour dire « Le plaisir, c'est important, le désir, c'est important. » Et là, maintenant, elles disent, les femmes polyamoureuses, on peut avoir plusieurs désirs différents en même temps. Les garçons l'ont expérimenté, elles l'expérimentent à leur tour.
Et pourquoi, justement, ça pose... Alors, on a compris qu'il y avait justement le contexte de la domination patriarcale, viriarcale. Mais en quoi, justement, vous, de votre place de chercheur, de sociologue, vous pouvez dire que c'est plus problématique quand ça concerne la femme plutôt que l'homme?
Parce qu'il y avait, il y a toujours eu, dans les sociétés à domination masculine, un contrôle social des femmes. Alors, on a eu peur à un moment qu'elles fassent des enfants qui ne soient pas de leur mari, mais en même temps, depuis les années 70, il y a la contraception féminine, il y a les avortements. Donc, on a dissocié aujourd'hui les sexualités de la reproduction. Mais en même temps, les hommes avaient des privilèges. C'est ça, la domination masculine. C'est pas un truc en dehors du temps et de l'espace. C'est que ça donne des privilèges aux hommes, notamment celui de pouvoir avoir plusieurs partenaires dans les mêmes temps. Et d'avoir une femme qui s'occupe d'eux à la maison, qui s'occupe de leurs enfants, etc. Là où c'est nouveau quand c'est des femmes qui le disent, c'est qu'elles essayent de s'extraire du contrôle masculin.
Daniel Welser-Lang, vous restez avec nous et nous parlons aujourd'hui de l'hétérosexualité, des nouvelles hétérosexualités. Ce matin jusqu'à 10h, ce bref.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et avec Nadia Elbouga, nous parlons aujourd'hui des nouvelles hétérosexualités. C'est le titre du livre de Daniel Welser-Lang, qui est notre invité, et c'est publié chez RS, Nadia.
Oui, juste avant la page pub, vous nous expliquez justement qu'il y a donc cette problématique, cette prégnance de la domination masculine et la problématique de l'affiliation. N'y a-t-il pas aussi cette crainte donc vis-à-vis de la sexualité, notamment des femmes, concernant la dissociation entre l'amour et le sexuel?
Ben oui, en tout cas actuellement c'est une peur qui est très répandue chez les hommes. Ils disent en gros, nous on a appris à dissocier l'affect et le sexuel, et les femmes on les connaît, elles sont dans le tout en un. Donc elles ont peur, mais en réalité la peur des hommes c'est de perdre le contrôle sur les femmes. Et c'est en plus quelque chose qui est nouveau, c'est apprendre à renégocier les rapports entre hommes et femmes, rediscuter. Or on a, c'est des sujets qu'on discute peu. La sexualité entre hommes et femmes, même dans des couples, il y a souvent peu de paroles, peu de mots pour dire ce qu'on vit.
C'est-à-dire peu de mots au sein des couples, au sein des groupes sexuels, c'est ça que vous voulez dire ?
C'est ça, oui. Peu de mots, au sein des couples ordinaires, il y a peu de mots. Et on sait en plus que le désir est une chose bizarre, mais au bout de quelques années de vie commune, il s'érode. Il disparaît, et ça veut dire qu'il faut discuter ce qu'on fait au niveau de l'érotisme. Donc il y a quelques personnes qui vont voir des sexologues pour ça, parce que c'est leur spécialité, mais on commence juste à mettre des mots plus simples pour essayer de réfléchir ensemble. Est-ce qu'il faut à tout prix qu'un couple se sépare quand les désirs se diversifient? On est dans une vraie crise du couple mononucléaire actuellement. C'est-à-dire que pendant longtemps, les familles, c'était papa, maman, les enfants, et puis les grands-parents, les alliés, quelques célibataires. Aujourd'hui, depuis les années 70-75, la famille, c'est papa, maman et les enfants, dans un HLM avec des normes de surface corrigées. Et le modèle du couple, il a un taux de divorce qui est extrêmement important aujourd'hui.
Et vous trouvez que c'est plus simple? Parce que c'est vrai que quand on lit le livre, qui est vraiment très, très, très riche en informations, on est en fait, vous nous expliquez de façon très accessible les différents groupes existants, les différents groupes sexuels qui existent, que ce soit dans l'hétéro ou dans l'homosexualité. Mais on a cette impression, quand on lit le livre justement et qu'on n'est pas initié, qu'en fait il y a à peine... Nous découvrons un nouveau groupe sexuel ou une nouvelle identité, qu'une autre déjà, que celle-ci est déjà désuète et qu'il y en a déjà une autre qui apparaît, qui se spécifie encore plus.
C'est une extrême diversification et une florescence de nouveaux termes. Il faudra attendre quelques temps pour que les termes, les groupes se stabilisent. Et encore là-dedans, pour faire ce livre-là, il y a plein de termes que je n'ai pas utilisés ou que je n'ai pas repris, parce que je les considère encore pas assez aboutis, et puis c'est 5 personnes qui, sur le net, se réclament de cette pratique-là. Donc c'est pas la peine d'en faire une catégorie sociale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les catégories sociales que j'ai rencontrées sur mes terrains de recherche, dans les conférences ou dans les réunions qu'on organise. Et là-dessus, c'est vrai que la norme explosant, on a plein de petites pratiques qui étaient considérées comme minoritaires ou marginales qui apparaissent et qui ont besoin de mettre un mot. On a besoin de mettre des mots sur les choses pour se rassurer dans ces cas-là.
Alors, vous dites que la norme explose. Donc, la norme dont on parle, c'est l'hétéronorme.
Oui.
Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui doivent se demander de quoi vous parlez. Parce que pour eux, finalement, rien n'a changé aujourd'hui, et y compris dans leur pratique. Et quand on dit exploser, c'est-à-dire en quoi, quelle forme cette explosion prend-elle?
Ça veut dire que le couple n'est plus une évidence, le couple traditionnel. Ça veut dire que le fait que, par exemple, il y a aussi bien des gens qui se déclarent asexuels, qui disent qu'ils n'ont pas envie d'avoir une sexualité, ils demandent à être respectés comme tels, que des gens qui vont se déclarer transsexuels, que des gens qui vont se déclarer bisexuels. C'est-à-dire qu'on va avoir l'éventail des catégories possibles qui va augmenter. Maintenant, c'est sûr qu'il y a un grand décalage entre les recherches des sociologues sur ce thème et ce que vivent les gens tous les jours. C'est-à-dire que quand on écrit un bouquin comme ça, on espère être compris dans 30 ans. Réellement. Vous savez, quand j'ai travaillé pendant au début de ma carrière sur les hommes violents, j'ai fait un bouquin qui s'appelle Les hommes violents. Au début, il ne s'est pas vendu du tout et tout le monde m'a dit ça n'existe pas, c'est pas vrai. Autrement dit, les sociologues, on n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. On est là pour essayer de décrypter dans les pratiques individuelles et collectives les courants émergents d'une société. Et là, on voit que dans les nouvelles générations, c'est vrai que j'insiste sur la jeunesse, dans les nouvelles générations, c'est des thèmes qui ne sont pas du tout exceptionnels et qui sont courants pour parler de soi, pour parler à l'autre, pour dire ce qu'on a envie ou ce qu'on n'a pas envie.
D'ailleurs, par exemple, et vous le dites, Facebook, lui, s'est mis à la page et vit avec son temps.
C'est ça. Mais regardez Facebook. Allez chercher votre identité de genre sur Facebook quand vous vous définissez. Vous vous rendrez compte qu'on peut se définir comme garçon, comme fille, mais qu'il y a 47 appellations officielles dans Facebook pour se définir par rapport au genre. 47.
Et c'est vraiment très précis. Alors, moi, je me demande si finalement, à quoi ça sert cette précision ? Est-ce que cette précision, elle vient pas justement ajouter une certaine confusion ?
Facebook n'a pas eu le choix. Il a été accusé d'être homophobe, transphobe, traphobe, biphobe par des gens qui l'utilisaient. Donc, comme il s'est appuyé sur la jeunesse majoritairement à partir des États-Unis, il s'est adapté aux revendications qu'il avait devant lui. Alors, ça peut paraître confus. En réalité, on ne se définit jamais de tous les termes à la fois. Et ça va aussi dépendre de où on habite et de qui on fréquente. Mais dans les lycées aujourd'hui, le genre fluide, par exemple, dans une classe, il y en a plusieurs.
Alors, redéfinissez, s'il vous plaît, le genre, ce que vous appelez le genre fluide.
De ne pas se considérer comme uniquement un homme ou uniquement une femme, et de pouvoir dire on a des deux. Et en tout cas, qu'on refuse les stéréotypes qui sont attachés au fait d'être un homme ou d'être une femme. Et vous savez, aujourd'hui, même comme en France, la loi sur les transsexuels a changé. Aujourd'hui, on peut changer de sexe au tribunal de grande instance sans avoir de certificat médical, sans être passé par un psychiatre pour savoir si on était normal ou pas, parce que la loi dit que quand on commence à être connu de l'autre sexe, on peut changer de sexe officiellement sans opération.
Oui.
Il y a des pays dans le monde dans lesquels... En mairie, on va déclarer « Ah ben j'étais un homme hier, et aujourd'hui je veux qu'on me considère comme une femme. » Et on vous change des papiers d'identité.
Parce que c'est votre choix, et vous voulez qu'on vous considère comme ça.
C'est ça.
Donc en fait, cette déconstruction justement des normes sociales sur la question du genre et sur la question des sexualités, au final, quel objectif a-t-elle ? Est-ce que c'est uniquement pour en revenir à l'introduction de l'émission, c'est-à-dire une déconstruction justement de la domination masculine, ou est-ce qu'il y a autre chose sociologiquement qui explique cette volonté justement de ne pas être enfermé dans un sexe anatomique, un sexe biologique, un sexe social, un sexe psychologique ?
On ne vit pas uniquement par opposition à un modèle. Mmh. On vit en essayant d'élaborer le nouveau modèle ou le modèle suivant. Et le sens qu'on voit, c'est que globalement, pas mal de gens sont en train de reprendre à leur compte les vieilles revendications féministes ou LGBT pour dire on va essayer de faire autrement. On va essayer de faire autre chose. Et en même temps, en essayant de mettre au centre la personne elle-même et ses plaisirs.
Oui, et justement, d'ailleurs, vous dites dans votre livre que c'est le questionnement, en fait, de la place des personnes intersexes et des travestis qui est venu justement questionner l'hétéronormativité.
Oui, parce que pendant longtemps, on nous a fait croire qu'il n'y avait que des hommes et des femmes. On sait aujourd'hui qu'entre 4 pour 1000 et 2 % de personnes naissent avec les deux sexes à la fois.
Alors on appelle ça comment ?
Intersexes.
Les intersexes, c'est
ouais,
ça.
Les intersexes, enfin, ce qu'on appelait avant l'hermaphrodisme, en fait.
C'est-à-dire qu'il y avait les deux au départ, plus ou moins, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Exactement.
Bon, d'accord.
Mais avant, c'était quelques figures historiques. On pense au chevalier d'Eon, par exemple, hein, bon, mais qui était une figure historique en France. Mais les intersexes, quand ils avaient les deux sexes, les chirurgiens opéraient. Ils enlevaient l'un ou l'autre, disant on ne pourra pas vivre dans une cour d'école si on ne sait pas si la personne est garçon ou fille.
Sans demander l'avis à personne, en fait, c'était ça qui se passait.
Sans demander l'avis à personne. Mais,
d'accord.
Enfin, les chirurgiens informaient les parents quand ils les jugeaient capables d'entendre ce que ça voulait dire. Sinon, ils ne les prenaient même pas. Il disait, il y a eu un petit problème à la naissance, ne vous inquiétez pas, on va résoudre ça. Les intersexes, aux États-Unis, ont fait des procès aux chirurgiens et des procès à leurs parents. Les intersexes ont gagné ces procès. À tel point qu'en France, par exemple, les mutuelles de médecins ont refusé d'assurer ce risque-là du procès d'intersexe. Et qu'en même temps, un groupe militant s'est fait à Lausanne, avec deux intersexes militants et militantes, hein, qui s'est associé avec des chercheurs et des chirurgiens pour essayer de dire « on fait un moratoire, on verra bien ». Les gens décideront, quand ils seront en âge de décider, s'ils veulent garder les deux sexes ou en choisir un des deux. Maintenant, c'est pour les deux sexes physiologiques. On sait depuis très longtemps, enfin depuis qu'on a découvert les chromosomes, qu'il y a XX, XY et il y a XXY. On sait qu'au niveau hormonal, il y a des femmes qui ont plus d'hormones mâles, comme de la testostérone, que certains hommes, et réciproquement. C'est-à-dire que le monde n'a jamais été entièrement binaire. Il y a des sociétés comme les Esquimaux, les Inuits, comme en Thaïlande, où il y a trois sexes. Il y a les hommes, les femmes, et puis entre les deux.
Et chez les Inuits, ils choisissent plus tard, en fait. Ils choisissent vers 7 ans ou...
Oui, ils choisissent plus tard, mais en même temps, ils sont élevés. Par exemple, chez les Esquimaux, il y a 20% des enfants qui sont socialisés de l'autre sexe que leur sexe de naissance. Et en plus, ce que nous disent les anthropologues, comme Bernard Saint-Anglure là-dessus, c'est que c'est le sexe des médecins, des chamans, des sorciers. C'est un sexe qui est valorisé. Donc, en Europe, on a eu un système extrêmement binaire. C'est ce système binaire qui est contesté. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde va changer de sexe. Mais en même temps, le fait même que si on voit une personne, on ne sache plus si c'est un homme ou sur une femme, ça change la donne. Et pareil pour les travestis ou les trans.
Bon, Daniel, là, il y a Nadia qui lève le doigt, vous ne la voyez pas, parce que vous êtes loin, mais laissez-la parler, respirez, Daniel.
Non, c'est intéressant ce que vous dites, parce que justement, en fait, ce qui m'a interpellée justement sur cette question de la position, les revendications des personnes intersexes et des travestis. Alors, les travestis, vous allez justement nous expliquer ça de suite, mais ce qui est intéressant concernant la place des personnes intersexes, c'est que en fait ça nous oppose l'argument biologique, l'argument naturel pour les personnes qui disent oui, mais dans la nature il y a bien un sexe masculin et un sexe féminin. Bien, du coup justement les personnes intersexes sont venues troublés sont venus à leur façon de parler, mais leur présence et leur revendication, parce qu'ils souffrent dans leur corps et dans leur chair de ce que vous avez cité, c'est-à-dire des assignations chirurgicales alors qu'on ne les a pas concertées vu qu'ils étaient enfants, bah, du coup vient nous questionner sur cette question du tout naturel.
C'est ça. On nous a fait croire que le genre, l'identité sexuelle, être un garçon ou une fille, être nommé comme tel et considéré socialement comme tel, c'était la nature. Les intersexes, comme les travestis et trans, on va en parler, nous montrent que c'est pas vrai, que la nature est beaucoup plus complexe que ce qu'on aura pu imaginer. C'est en cela que les intersexes, quel que soit leur nombre, sont intéressants au niveau de l'analyse, puis au niveau du droit de la personne, bien évidemment.
Bien, Daniel Welser-Lang, vous êtes avec nous aujourd'hui. On parle de votre livre, Les nouvelles hétérosexualités, aux éditions RS, jusqu'à 10h sur Beurre FM.
À votre santé, reviens dans un instant. À votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Nous parlons des nouvelles hétérosexualités aujourd'hui avec notre invité Daniel Welser-Lang. Je rappelle que vous êtes sociologue et que vous publiez un livre sur le sujet aux éditions RS et que vous avez étudié notamment ces nouvelles formes d'hétérosexualité qui sont en train d'émerger. Alors, aujourd'hui, elles sont nombreuses, ces formes. Quelles sont-elles ?
Il y a trois niveaux de distinction. Il y a la question du genre, être un homme, une femme, être un genre fluide, refuser de se positionner dans cette question-là. Il y a les identités sexuelles, comment on fait l'amour, ou comment on pratique une sexualité avec les gens. Et il y a une troisième chose, c'est les dispositions sexuelles. Comment je vis mes sexualités, avec qui, comment j'aime les gens. Et là, on s'est rendu compte dernièrement que il y avait le libertinage, on le connaissait. Hein. Le libertinage, moi, je travaille dessus depuis 1995, 94. Mais au début, c'était l'échangisme. C'était les hommes qui échangent les femmes. Point. Et les femmes n'avaient pas grand-chose à dire par rapport à ça. Aujourd'hui, pas mal de couples se sont emparés du libertinage pour essayer autre chose, pour raviver la flamme érotique. Mais il y a aussi des gens qui vivent à trois. Il y a des troupes. Il y a des gens qui...
Les troupes.
Ah oui.
Le couple trouble. Il y a les gens qui disent, moi j'aime bien une sexualité avec plein de partenaires différents, dans un lieu particulier. Il y a des gens qui disent, moi je veux vivre tout seul ma sexualité, et je ne tiens pas à vivre avec quelqu'un d'autre, et je me contente tout seul.
Attends, j'ai pas compris, je veux vivre tout seul ma sexualité. Donc, et ça, c'est pas des asexuels en fait.
C'est pas des asexuels.
C'est des monosexuels.
C'est des monosexuels, mais c'est plus que ça. On s'est rendu compte que, par exemple, sur Internet, un certain nombre de personnes vivent leur sexualité à travers l'exhibition ou le fait de regarder des images ou de discuter de manière érotique avec d'autres personnes. Et elles nous disent que c'est plus satisfaisant comme sexualité que ce qu'elles vivaient avec leurs proches avant.
En fait, elles n'ont pas, ces personnes ont fait le choix de ne pas avoir de partenaire physique, mais d'avoir une relation plutôt virtuelle ou fantasmée.
Oui, virtuelle, mais en même temps, elles jouissent, ces personnes-là. Elles racontent un plaisir corporel. Le dernier, un des garçons qui a répondu à nos entretiens, c'était un garçon qui nous dit « Moi, j'ai 30 ans, ma femme est mignonne, impeccable, regardez, et puis il nous a montré les photos, mais honnêtement, je prends beaucoup plus de plaisir sur tel site, le site dans lequel il était, que de faire l'amour avec ma femme. »
Et là, vous parleriez de monosexualité dans ce, ouais, dans ce type
ou
d'exemple
d'une personne qui se situe toute seule, oui. Oui, c'est... Oui, de monosexualité. Ou de nouvelles pratiques sexuelles et où on ne sait plus si la personne est seule ou c'est à plusieurs.
Et qu'est-ce que ça dit sociologiquement?
Ça dit que, c'est que les catégories qu'on avait avant pour penser les sexualités sont en train de s'essouffler, en train de devenir poreuses les unes par rapport aux autres. Parce que les gens, ce qui est intéressant pour un sociologue, c'est de regarder les mêmes personnes et de les revoir quelques années après. On se rend compte qu'il y a des gens qui continuent à vivre les mêmes idées, les mêmes plaisirs, et puis il y a des gens qui sont rentrés parce qu'il y a le métier, il y a le travail, ils sont rentrés plus dans la norme. Mais en même temps, ça leur a donné l'opportunité de choisir quel type de sexualité ils voulaient vivre.
Mais enfin, vous dites qu'ils sont rentrés dans la norme. Alors qu'on a commencé cette émission en disant que justement la norme qu'on avait connue jusqu'au XXe siècle est en train de se déconstruire.
Oui.
Donc rentrer dans la norme, aujourd'hui, ça veut dire quoi rentrer dans la norme? C'est quoi la norme finalement?
Un couple égalitaire ou qui se veut égalitaire, par exemple, c'est une nouvelle norme maintenant. Le fait que l'homme s'occupe des enfants comme une mère, le fait qu'il puisse faire à manger, qu'il puisse s'occuper du travail domestique, il y a les normes conjugales, l'hétéronorme, elle varie aussi beaucoup. Elle s'est adaptée aux revendications égalitaristes. Donc, aujourd'hui, un homme qui dit « moi je ne fais rien chez moi, c'est ma femme qui fait tout et parce que je suis un homme », on va le regarder bizarrement, surtout chez les moins de 50 ans. On va dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il n'est pas. Donc la norme évolue.
On parlait des nouvelles hétérosexualités. Alors il y a quelque chose qu'on entend partout et qu'on dit partout aujourd'hui, qui est super fashion, super tendance, Nadia, c'est le candolisme.
Oui, alors expliquez-nous.
Le candolisme, c'est le fait de prendre du plaisir à voir son ou sa partenaire faire l'amour avec quelqu'un d'autre.
Voilà. Et je vous dis ça parce que le premier site internet consacré au sujet, oui. Eh bien, évidemment, il est toulousain.
Il est toulousain, eh oui.
Eh ben, voilà. C'est vrai, là, ça ne s'invente pas, ça. Hein.
Et en plus, non seulement il est toulousain, mais c'est parce que le monsieur qui a monté ce site-là avait une maman qui était professeure agrégée de français, qu'elle connaissait la mythologie égyptienne, qu'elle lui a dit « Mais ça, ce que tu racontes, c'est Candole, c'est la légende du roi Candole. » Et qu'il a inventé le candolisme. La première fois que j'ai vu qu'on m'a parlé de candolisme, j'ai été voir sur Google.
Eh bien, moi, j'ai rien trouvé.
J'ai rien trouvé ?
Non, j'ai rien trouvé. Quand j'ai regardé, j'avais pas trouvé de définition précise du mot.
Ah non, définition, non. Mais les citations, enfin le nombre sites, de références au candolisme, à l'époque, il y avait 153 références, maintenant il y en a des centaines de milliers.
Ah, ouais. Alors, et donc, ce roi, il avait une femme qui était tellement belle qu'il voulait l'exhiber, c'est ça ?
C'était un vieux monsieur qui n'avait plus vraiment toutes ses capacités sexuelles, qui avait une jeune femme très belle et qui il ne pouvait pas se satisfaire normalement de la sexualité avec sa jeune femme, ce roi. Donc il l'a offerte à un lieutenant de sa garde, en regardant derrière les rideaux, je suppose, qui se passait pour s'exciter. Bon, l'histoire se termine mal.
Ils l'ont zigouillé.
Le roi meurt quand même. Hein, mais bon.
Il le zigouille, il s'en débarrasse.
Il s'en débarrasse,
oui. Bah oui, c'est ça. Je voulais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure et ce qui passe, parce qu'il y a de nombreux parents qui nous écoutent, qui finalement peut-être sont en train de s'interroger sur ce qu'on est en train de dire, et que vous parlez finalement de la jeunesse. Les jeunes sont très sensibles à la mode et au phénomène d'imitation. Est-ce qui veut dire que finalement certaines nouvelles hétérosexualités se propagent parce que par imitation?
Sans doute, mais par opposition aussi. C'est-à-dire que il y a toujours des phénomènes de mode qui fait que ça marche, que ça se diffuse. Mais il y a aussi des phénomènes collectifs d'opposition à des anciens modèles. Aujourd'hui, quand les garçons disent on confond plus rien des filles parce qu'elles veulent qu'on soit pas macho, qu'on soit égalitaire et en même temps elles veulent un mec viril qui assume au niveau sexuel, il y a toutes ces questions-là dans la jeunesse. C'est-à-dire que la jeunesse a intégré des revendications d'il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans de la part des personnes qui se considéraient comme discriminées, et elle essaye, elle tâtonne, elle expérimente. Je crois que ce qu'on peut dire, s'il y a des parents qui nous écoutent, c'est qu'ils ne doivent pas s'inquiéter. C'est qu'ils doivent pouvoir en discuter avec leurs enfants, et puis si eux sont perdus, il y a des livres pour se renseigner, il y a des émissions pour se renseigner, mais c'est pas être anormal que de se revendiquer d'un autre genre ou d'un genre fluide aujourd'hui.
Moi, je peux vous dire, Daniel Welzerland, que beaucoup de parents sont un peu perdus.
Ben oui.
Ils sont très 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 perdus parce qu'ils s'imaginent des choses qui étaient inconcevables il y a ne serait-ce que 15-20 ans, et voilà, et ça les interroge en tout cas.
Oui, mais faut qu'ils se souviennent quand ils étaient jeunes. Il faut qu'ils se souviennent de leurs réactions.
C'était beaucoup plus simple quand on était jeune, mon bon monsieur.
C'était moins simple que ça, j'ai l'impression. Mais on oublie les mauvais moments. On oublie les mauvais moments pour privilégier les moments positifs. Et c'est bien. Mais je pense que c'était la grande expérience par rapport aux enfants homosexuels. Les parents ont découvert que ce n'était pas si extraordinaire que ça, qu'il suffisait de discuter et de respecter son enfant. Et que si l'enfant est heureux, qu'est-ce qu'on peut demander de plus ?
Alors, professeur Welzerland, pardon, est-ce que vous pouvez me donner un exemple, parce que vous dites justement qu'il y a trois en fait plans sur lequel d'ailleurs vous développez bien votre livre. Il y a l'identité de genre, l'identité sexuelle et les dispositions sexuelles. Est-ce que vous pouvez nous donner une personne? Vous prenez l'exemple d'une personne et vous nous donnez justement un exemple d'identité de genre, identité sexuelle et une disposition sexuelle pour que nos auditeurs...
C'est une vraie personne qui existe pour qu'on puisse mettre...
Non, une composition, peu importe. Mais pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle.
C'est simple, il y a les transgenres, les gens qui proposent de changer de sexe et d'être reconnus comme tels. Et ça, aujourd'hui, alors qu'avant les transsexuels devaient passer devant une commission médicale pour être opérés et changer de sexe, aujourd'hui ça peut se faire simplement. Il y a des gens qui se déclarent transgenres et ça correspond à ce qu'on qualifie aujourd'hui une transidentité. Sur les catégories...
Alors, je m'arrête un instant là. C'est ce que, d'ailleurs, vous décrivez dans votre livre. Vous dites qu'une personne par exemple, une femme qui aurait une anatomie sexuelle féminine serait une cisgenre.
Oui, c'est ça.
On explique le mot, hein, parce que cisgenre...
Oui, donc...
C'est simple, parce que pendant longtemps, on a demandé aux gens « Vous êtes transsexuel ou transgenre ?» Et les gens ont dit « Non, on est normaux. » Et c'est quoi ce normal ? Les transgenres ont dit « Arrêtez de nous dire que vous êtes normaux et pas nous. On est aussi normal que vous. En fait, nous, on passe d'un genre à l'autre, on est transgenre, et vous restez dans le même genre. Vous êtes cisgenre, c'est la racine latine.
C'est-à-dire être aligné avec son genre, c'est ça ?
C'est-à-dire que le sexe anatomique correspond au sexe social, féminin
cis-genre.
Ou masculin. Cisgenre,
voilà. D'accord.
En tout cas, de ce qui est identifié comme sexe social. Voilà.
Et ensuite... Au niveau des nouvelles sexualités, des pratiques sexuelles, je pense qu'il faut retenir les asexuels, les gens qui refusent de faire l'amour, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de débat érotique. Il faut aller voir leurs sites qui leur sont consacrés. Et en même temps, il y a une chose qui réapparaît à chaque fois, c'est la question de la bisexualité. Moi, ça fait un bout de temps que je travaille là-dessus. On sait que depuis très longtemps, les hommes ont des rapports sexuels entre eux dans plein d'endroits, mais qui ne veulent pas que leur femme le sache. On voit aujourd'hui l'émergence de bi qui assument mieux leurs désirs qu'avant.
Oui, alors ce que vous dites, voilà, vous, après, vous soulignez dans votre livre d'ailleurs, vous dites que, oui. C'est d'ailleurs pour ça que dans les campagnes de prévention, on parle de HSH, hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, et qu'on ne parle plus de gays, enfin exclusivement de gays ou d'homosexuels, parce qu'il y a des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, mais qui ne se revendiquent pas comme gays.
Ben c'est ça, oui. Et moi, je faisais des comptages dans un sauna gay sur une recherche sur les bisexuels. J'avais certains après-midi entre 70 et 80% d'hommes qui se déclaraient hétérosexuels, mais qui venaient dans ce sauna avoir des pratiques sexuelles entre hommes.
Mmh. Après, il y a une autre question que vous soulevez dans votre livre. Est-ce que la bisexualité existe vraiment, ou est-ce que finalement, la bisexualité, c'est pas des homosexuels qui n'ont pas fait leur outing?
C'est ce que pensent beaucoup de gays. C'est parce que souvent, les gays, avant de dire qu'ils sont gays à leurs parents ou à leurs amis, ils ont dit on est bi. Ils pensaient que c'était plus acceptable. Donc ils pensent que les autres bi sont un peu dans leur cas. Mais en même temps, on voit que sur plusieurs dizaines d'années, la catégorie bisexuelle chez certaines personnes, elle est stable.
Oui, parce que là, ce que vous dites, Philippe, c'est un discours qui date quand même. Hein. Là, maintenant, on a des personnes qui...
Je suis le vieux con d'émission. Nadia, je vous
rappelle.
Et je le revendique.
Avec tout mon respect.
Et je le revendique. Mais j'ai tiré mon exemple du livre de Daniel Verzelang et je me suis dit que finalement, cette catégorie n'existera peut-être plus dans 10 ans au regard des nouvelles identités.
Non, parce que vous avez des jeunes maintenant, en fait, ils sont plus dans cette problématique de coming out. Hein. Ils revendiquent une orientation bisexuelle. Donc, ils ne sont pas dans une posture de « je ne peux pas dire » ou « je ne peux pas révéler ma sexualité ». Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez
Oui, mais alors après, ça dépend d'où est-ce qu'on habite. Quand on habite le quartier populaire du Mirail à Toulouse, c'est compliqué encore de dire à ses voisins de palier qu'on est homosexuel ou bisexuel.
Parisien. Oui, tout à fait.
Mais on va en ville et c'est admis. Donc, il y a des...
Enfin, on va en ville, hein, à Ampalo, c'est pas mieux, hein, je dis tout de suite.
Oui, c'est ça, oui, je suppose.
D'accord.
Bon. Mais il y a des en fonction des lieux, des pratiques, des milieux sociaux, c'est plus ou moins toléré. Mais ça évolue largement depuis plusieurs dizaines d'années. Vous savez que c'est l'homosexualité masculine qui est la principale cause de suicide chez les jeunes garçons. La peur des réactions de l'entourage et des parents.
Le sociologue que vous êtes, quelle est de toutes ces formes d'hétérosexualité qui sont en train d'émerger, celle qui sera la plus prévalente dans 10 ou 15 ans ?
Ben, je ne veux pas dire ça.
On peut
je
pas.
Ne sais pas. Honnêtement, par contre, ce qui est sûr, c'est que les catégories paraîtront plus instables, poreuses, fluides, malléables que ce qu'on nous a appris quand on était plus jeune, en tout cas pour les gens de ma génération.
Bien. Et le retour au romantisme, c'est pour quand ?
Eh bien, sans doute dans quelques années. Il y a des mouvements de balanciers. Mais pour pouvoir être romantique, c'est bien de passer par une période aromantique. Ça permet d'avoir un choix. Alors que pour l'instant, il y a certaines filles qui pensent qu'on leur a imposé le romantisme. Donc, et que...
Oui, avec le prince charmant...
Le prince charmant, c'est quand même
sur son cheval blanc.
Aux violences qu'elles subissent. Hein.
Je rappelle le titre de votre livre, Daniel Verzelang, Les nouvelles hétérosexualités chez RS. C'est passionnant, en tout cas.
À lire, franchement, honnêtement, notamment pour les parents qui se posent beaucoup de questions, qui entendent aussi leurs jeunes utiliser des termes à côté desquels ils passent. Je vous conseille de lire ce livre. Vraiment.
Merci d'avoir été avec nous depuis Toulouse ce matin.
Merci à vous, au revoir.
Voilà, Nadia, on vous
Merci.
Rend aux Toulousains.
Oui.
Comme ça, vous pouvez aller faire vos études.
Retrouvez À Votre Santé tous les samedis de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.